Depuis vendredi soir, nous avons partagé au niveau de la parole un point important, c'est-à-dire regarder certaines choses, non pas vues de notre point, d'en bas, mais vues d'en haut. Dieu nous a créés à sa ressemblance et à son image. Et depuis vendredi, quelque chose s'installe. Je n'ai pas du tout fait attention aux paroles des chants qu'on a répétées vendredi soir, plus ce matin, d'autant que Marcelin a inversé les deux derniers chants. Et pour moi, ça a cette importance-là. Voilà. Donc, je souhaiterais que l'on regarde ce matin, puisqu'on est en même temps au début de l'année, un point qui, pour moi, est un des plus importants de la parole de Dieu, vu d'en haut. C'est une attente de Dieu dans nos vies, et la dimension de la vie de l'Esprit qu'il veut nous donner, dans laquelle il attend que nous entrions. Et parfois, on le regarde avec une approche du bas vers le haut, c'est-à-dire de nous, nos expériences propres, de ce qu'on nous a dit, de notre compréhension de la parole de Dieu. Mais je souhaiterais qu'on puisse, pendant quelques instants, s'exonérer un tout petit peu, si possible, de nos idées déjà, même si elles sont justes, pour essayer d'apporter un regard, mais vu d'en haut. Voilà. Et je vais vous amener dans la lecture, à partir de la Genèse, jusque dans l'Épître aux Corinthiens, où il est mention de l'Esprit. Dans le livre de la Genèse, il est dit ceci, au chapitre 1er, on revient forcément à la Genèse de la Genèse. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il est dit, chapitre 1er, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Puis il y a d'autres choses qui suivent, mais ce pluriel, on est tous d'accord, tous les commentateurs bibliques l'attestent, ce pluriel relève de la réalité de la personne de Dieu. Dieu est un être qui est Père, Fils et Esprit, il n'est pas comme nous. Et cette pluralité fait apparaître le Père, le Fils et l'Esprit. Et ce sont des choses, ce sont des dimensions qui sont au-dessus de notre compréhension. Néanmoins, c'est écrit, Dieu a voulu que la finalité de son œuvre, l'être humain, soit créé à son image, à sa ressemblance. Donc il y a en nous une base qui est appelée à être pour lui, à venir à lui ou à revenir à lui. On le voit au chapitre 1er, verset 2. Dès le départ, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis, c'est un petit peu discret. La présence de l'Esprit, l'action de l'Esprit en ce temps-là de la Genèse. Néanmoins, dès le départ, il y a l'Esprit de Dieu. Dieu est à l'action, on sait beaucoup plus loin que c'est le Christ, c'est Jésus qui a fait les choses, tout a été créé par lui, pour lui, etc. On a ces explications beaucoup plus loin dans le temps, ce qui nous amène à cette affirmation, dès le départ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque Dieu crée l'homme, on revient au chapitre suivant, il lui donne déjà une dimension spirituelle. Chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint une âme vivante. » Voilà. Et nous savons que les termes grecs qui sont utilisés sont précis. La poussière de la terre, c'est le soma, c'est le corps, et il y a des correspondances avec d'autres éléments de la création. Il y a cette âme vivante qui est le psouché, le psyché, qui a donné la dimension psychique de notre vie, mais au milieu, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et le terme grec utilisé, c'est pnoé, souffle spirituel. Ce n'est pas simplement une animation vivante, faire fonctionner la chose, si vous me permettez de le dire autrement. C'est un souffle d'ordre spirituel. Le pnoé, d'une certaine manière, au niveau de la racine étymologique, correspond au pneuma, qui est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, et Dieu a donné à l'homme déjà une dimension d'ordre spirituel. La preuve en est, c'est que quand le corps retourne à la poussière comme il y était, l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et cette particularité, elle est, comme on dit, factuelle. Nous sommes créés comme cela. La question qui s'est posée suite à l'arrivée malheureuse du péché, c'est que ce souffle d'ordre spirituel s'est retrouvé coupé de sa racine nourricière, comme quand on coupe une fleur ou une plante de sa racine nourricière, elle est déjà en processus de mort physique. L'homme est en processus de mort physique à cause du péché, mais surtout en processus immédiat, lui, de mort spirituelle, qui ne peut être rattrapé que par la résurrection. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu. Alors on continue la lecture, et quelque part j'ai réalisé un peu plus ce dont on est informés les uns les autres, c'est que quand Jésus, après la résurrection, va se présenter aux disciples, il va faire quelque chose qui peut nous surprendre, mais c'est tellement évident que ça rejoint la Genèse, c'est quand au chapitre 20 de l'évangile de Jean, il est dit ceci. Alors, je vous invite à faire la lecture. À partir du verset 19, Jean chapitre 20 et verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc jour de la résurrection, comme pour mettre dès le départ les choses d'importance dans le bon ordre. Le pardon des péchés vient d'être réalisé. La victoire de la croix vient d'être accomplie et ces victoires-là sont manifestées dans toutes les dimensions. Dans le séjour des morts, les choses ont été connues. Dans le ciel, il y a eu guerre et bien des choses ont changé pour l'éternité. Et c'est le premier jour de la résurrection, il se présente aux disciples. Et il est dit ceci, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et là, il fait quelque chose qui est surprenant, mais que l'on relie évidemment à la Genèse, puisqu'on est dans la nouvelle création. Après ces paroles, il souffla sur eux. La même chose. Je ne l'avais pas vu jusqu'à présent sous cet angle-là. Mais je me suis dit, mais vu d'en haut, il est obligé de recommencer la même chose. Quand il a créé l'homme et la femme, avant que le péché ne soit, l'homme et la femme étaient animés d'un esprit, d'un souffle qui venait de Dieu. Et à cause du péché, tout a été dégradé. Et là, il faut tout recommencer. Une nouvelle création. Il souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et puis il continue. Voilà. Et souvent, dans la parole de Dieu, il y a des petites phrases comme cela, qui sont au milieu d'un récit, se demanderaient éventuellement ce que ça vient faire là, d'un seul coup, mais c'est l'Esprit qui va nous éclairer pour nous amener à relier les choses entre elles, parce que c'est le propre de la parole de Dieu, c'est pas un livre comme les autres avec un raisonnement qui se suit. Là, il faut suivre, nous, le raisonnement de Dieu, l'action de Dieu. Voilà. Et il est en train de mettre des jalons, un peu comme des pierres sur un chemin. Si vous voulez suivre le bon chemin, regardez les pierres et vous allez voir que tout est cohérent, vu de Dieu. Tout est un cheminement et aboutit à un but. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Objectivement, rien ne se passe. Pourtant, il a dit, mais rien ne se passe. Voilà. Ils vont continuer, ils vont aller pêcher, Jésus va de nouveau revenir vers eux, va avoir cet entretien avec Pierre, particulièrement à ce moment-là où il a dit ce qu'on vient de lire, rien ne se passe. Mais le Seigneur a posé une base incontournable. Et maintenant, on arrive dans Actes chapitre 1er, dernière parole de Jésus avant d'être enlevé au ciel. Chapitre 1er, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Essayons de nous positionner plus haut. C'est lui qui parle, il poursuit son idée. Il veut bâtir l'Église, mais il veut donner une dimension à l'Église, c'est-à-dire à chacun de ses enfants. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on se rappelle que c'est peut-être surprenant, mais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, lorsqu'on vient vers Jean-Baptiste, il dira, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, qui est plus grand que moi, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Est-ce que Jean le Baptiste sait de quoi il parle? Moi, je crois que l'Esprit l'inspire, mais Jean ne sait pas plus que ça de ce dont il parle, parce que ça ne s'est jamais encore produit, comme ça va arriver le jour de la Pentecôte. Néanmoins, il fait partie de ces hommes que Dieu a inspirés depuis l'Ancien Testament, et on voit ces pierres depuis le jour de la création, on voit ces pierres qui sont posées, et un cheminement vers lequel le Seigneur a voulu diriger les siens et son œuvre, ce jour où il pourrait y avoir entre lui et nous une communion d'ordre spirituel. Et ça, c'est quelque chose de particulier qu'il convient de regarder d'en haut, parce que d'en bas, on ne le voit pas bien. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. Alors, forcément, on va le lire, mais avant de le lire, je voudrais replacer la Pentecôte dans son contexte. La Pentecôte arrive dans le désert. Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il le conduit dans le désert, et dans ce passage dans le désert, qui normalement ne durait qu'un an et demi, ça a duré beaucoup plus pour d'autres raisons, mais quand on regarde les étapes qui amènent jusqu'aux espions qui vont rentrer en Canaan faire une première approche, eh bien, jusque-là, il y a à peu près un an et demi qui se passe. Les autres années seront rajoutées pour d'autres raisons. Et donc, Dieu a donné sa parole, Dieu a donné la construction du tabernacle, et Dieu a donné les fêtes. Et quand on lit, si vous voulez le regarder, parce que peut-être que dans votre Bible, c'est partagé comme dans la mienne, dans le livre du Lévitique, qui est le rappel de la loi de Dieu, on voit bien les choses telles qu'elles sont placées. La Pâque, c'est le premier jour pour vous, la Pâque sera le premier jour. Le premier mois de l'année, voilà, le 14e jour. Mais le mois de la Pâque, pardon, c'est le premier mois de l'année. Le calendrier spirituel commence là, à la Pâque. Et la Pâque, c'est le début. Chapitre 23, vous le voyez, les fêtes de l'Éternel, le sabbat, la Pâque. Ensuite, on passe de suite à la fête des prémices et à la Pentecôte. Et ça va se terminer un peu plus tard, à l'automne d'une année de ce calendrier-là. Ça va se terminer à l'automne avec la fête des trompettes et le jour du grand pardon. Et puis la fête des tabernacles, où on va habiter dans le plan de Dieu. Et il y a des vérités dans ces fêtes que Dieu a données, et qu'il a mentionnées sous forme de fêtes. Lui, il paie le prix, et pour nous, c'est une fête. La Pâque, c'est une fête pour le peuple de Dieu. C'est la libération de l'esclavage du péché et de l'esclavage de l'Égypte. Pour nous, c'est une fête, pour Dieu, c'est un prix à payer. Mais il y aura 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la fête des moissons dans ce calendrier-là. À l'hiver, on a planté. On a demandé au printemps la pluie du printemps, de l'arrière-saison. La bénédiction de Dieu se manifeste. Et puis arrive le temps des moissons. Et la fête de la Pentecôte, c'est le temps des moissons. On agite la gerbe dans la maison de Dieu. Et le Seigneur veut nous montrer par là que quand on reçoit ce qu'il nous donne, pour lui c'est une fête et ça le devient pour nous aussi. Et ça c'est quelque chose qu'il nous faut peut-être considérer de cette manière-là. La Pentecôte, c'est le don de la Torah au Sinaï. La Pentecôte, c'est ce qui vient d'en haut dans nos vies. C'est le don du Saint-Esprit au lieu de la prière. Vous attendrez à Jérusalem et ils attendent dans la chambre haute, ils sont tous en train de prier. Ils attendent ce que le Seigneur leur a dit sans savoir plus. Mais ils attendent, parce que le Seigneur le leur a dit plusieurs fois, et avant de partir, il leur a encore recommandé. Alors quand il y a des recommandations qu'on nous fait, il vaut mieux les suivre, parce que ça veut dire que c'est important pour la personne qui nous le dit. Eh bien, pour Dieu, c'est important. Ça ne l'est peut-être pas à notre appréciation, pour certains, peut-être pour le moment. Certains voient ce qui est important dans le pardon des péchés, c'est important. D'autres voient ce qui est important dans la guérison des corps malades, c'est tellement important. D'autres voient ce qui est important dans les grâces de Dieu pour aider à mener la vie de tous les jours et nous avons besoin de son intervention, c'est important. Mais tout cela, c'est d'une certaine manière quand même vu d'ici-bas. Regardons-le d'en haut. Et d'en haut, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est que ces hommes et ces femmes auxquels il avait donné déjà une part de son esprit, et dans la vie desquels tout s'était dégradé de manière absolue, ces hommes et ces femmes, Dieu voulait de nouveau les animer de son esprit. Et je ne voudrais pas, parce qu'on prendrait peut-être le risque d'être irrespectueux à l'égard de Dieu, voire offensant. Je ne voudrais pas que nous puissions dire « Non, non, moi je le vois comme ça, moi je le comprends comme ça, c'était pour ce temps-là. » Quand vous lisez les commentaires sur le sujet de la vie, de l'esprit, il y a tellement de choses différentes, et parfois même à l'opposé des unes des autres, qu'on prendrait le risque d'avoir raison, alors que c'est quand même Dieu qui est le dernier mot. On prendrait le risque d'imposer notre point de vue au lieu du sien. On prendrait le risque de ne pas être respectueux, voire d'être offensant. Si nous devons regarder la parole de Dieu, regardons-la avec ouverture et avec objectivité. Dans le livre, dans l'évangile de Jean, à un moment donné, le Seigneur va dire quelque chose qui va aussi surprendre tout le monde, mais qui est un jalon. C'est un jalon. Au chapitre 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et là aussi, c'est une parole qui tombe un peu au milieu d'un événement qui n'est pas particulièrement annoncé et que le Seigneur ne va pas développer plus que cela. Mais ce grand jour de la fête où, dans le calendrier juif, on allait recommencer de manière cyclique la lecture de la Torah, Jésus se lève, et sa maison, c'est sa maison, appelée une maison de prière pour toutes les nations. Il revendique l'autorité, le droit de se lever. Il est la parole. Alors, je ne sais pas ce que vous, on peut le ressentir facilement, quand quelqu'un parle à votre place, il vaut mieux qu'il soit en harmonie totale avec vous. Il est dans le temple et on parle à la place de Dieu. Et parfois, ce que l'on dit à la place de Dieu, vu du côté de Dieu, ça pourrait être un petit peu, ça pourrait l'affecter en disant, mais non, moi, c'est pas ce que je dis, c'est pas tout à fait ce que je dis. Ces pensées-là, ce ne sont pas tout à fait les miennes. Ces affirmations-là, non plus. Il est dans sa maison, il fait le miracle, j'ouvre une parenthèse, le jour du sabbat, et les représentants officiels de la loi se mettent à critiquer. Mais Dieu de dire, le Seigneur de dire, mais lequel d'entre vous, le jour du sabbat, ne va pas donner à boire à son animal? Et vous faites des commentaires, parce que moi, le jour du sabbat, je guéris cet homme. Mais il a le droit, c'est à lui, il le revendique. Et si sur ce point-là, on est tous d'accord pour dire « Ah ben oui, quand même, là, les religieux faisaient des commentaires complètement offensants à l'égard de Dieu », attention de ne pas prendre le risque, dans d'autres commentaires, de ne pas nous retrouver légèrement à côté. Parce que quand on est à côté, qu'on soit beaucoup à côté ou légèrement à côté, on est à côté de la position qui est la bonne. Et lui, le dernier jour, le grand jour de la fête, il se lève et il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive !» De quoi parle-t-il ? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Point. Et on passe à la suite. Il y a encore des pierres, il y a encore des jalons qui sont là. Alors, le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Alors, on va se libérer du calendrier juif, puisqu'on ne peut pas le faire correspondre avec le nôtre, ou alors il faudra attendre le mois d'avril, voir la Pentecôte pour un message comme celui-là. On le transpose à notre calendrier, on est au début de l'année. Et je me dis que vu d'en haut, l'attente de Dieu à notre égard, elle est peut-être là où nous ne l'attendons pas forcément. Mais regardons d'en haut. Lui nous attend dans une communion avec lui par son esprit. Un petit peu libéré s'il le fallait, exonéré dans tous les cas, d'idées déjà toutes faites sur la question. Dites-moi si objectivement je suis à côté ou pas, mais dès le départ, il y a l'esprit. Dès la création de l'homme et de la femme, il y a cette dimension d'ordre spirituel. Le prophète Joël va l'annoncer. Ça va être repris et se manifester le jour de la Pentecôte. Lorsque Jésus vient, il prend soin d'en parler. Et quand, après la résurrection, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, quand après la résurrection, il se présente aux disciples, il relie la Genèse à la nouvelle création. Recevez le Saint-Esprit. Et puis les choses restent en l'état. parce qu'il va falloir attendre. Dieu respecte son propre calendrier. On est quelques jours après la Pâque, 40 après la Pâque, mais il va falloir attendre encore 10 jours pour que le calendrier de Dieu soit respecté, et c'est une fête. Et le jour de la Pentecôte, c'est une fête. Des prosélytes viennent et des juifs viennent de partout à Jérusalem, hein, l'année prochaine à Jérusalem, on le dit même encore aujourd'hui. Seulement à Jérusalem, Dieu avait un rendez-vous avec un grand nombre de personnes qui n'étaient pas forcément au courant. Déjà, il y en avait 120 qui attendaient ce que le Père avait promis. Et puis, il y en avait des milliers qui étaient là, qui ne savaient pas comment cette journée allait se terminer pour eux. Parce que pour certains, ça a dû les surprendre. Le cœur vivement touché, 3000 conversions, 3000 baptêmes. Ni Pierre ne l'avait prévu, ni eux non plus. Mais c'est le rendez-vous de Dieu. Et Dieu a des rendez-vous dans nos vies qu'il nous adresse. Alors regardez votre boîte aux lettres. Vous avez certainement reçu l'invitation de Dieu au rendez-vous avec lui. Et ce rendez-vous, désormais, après que le pardon des péchés ait été réalisé vraiment, eh bien le rendez-vous avec Dieu, c'est dans le domaine de la vie de l'esprit. L'apôtre Paul, qui viendra un petit peu plus tard, va vivre et réaliser exactement les mêmes choses. Et quand il va rencontrer ces chrétiens à Éphèse, il va leur dire « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Alors on va le lire dans Actes 19. Alors d'aucuns me diront « Oui, vous êtes un pasteur pentecôtiste. » Moi, j'ai jamais dit ça. Mais si être pentecôtiste, c'est faire référence à ce jour de la Pentecôte, forcément, mais il faut y faire référence d'une manière complète. Ce jour de la Pentecôte, il y a tout, le pardon des péchés, des repentances, des conversions, des baptêmes d'eau et des baptêmes de l'Esprit. Et je me dis, ça oui, ce programme-là oui, cette dimension-là oui. Je ne veux pas qu'une partie des choses, Seigneur, je veux la totalité des choses. Je me rappelle ce que nous disait, parce que ça m'a vraiment interpellé, M. Beauvert, concernant son ami Alfred Kuhn, qui a écrit et un avis différent sur ce point-là, et il lui disait, hein, il lui disait, mais Alfred, tu ne peux pas me dire autre chose que ce que j'ai vécu avec mon épouse. On a lu chez nous, personne ne nous a rien dit, parce que de toute façon, on n'allait pas à l'église. On a lu chez nous, on s'est converti chez nous, on a vécu ces choses-là chez nous sans vraiment les comprendre. Et après, quand on est à l'église, on est allé à l'église, on a rencontré des pasteurs qui nous ont expliqué. Voilà. Et moi, je me dis, c'est ça. À la limite, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Prendre un pas de recul par rapport à certaines choses et se tenir tout seul dans sa chambre haute auprès du Seigneur en lui disant, Seigneur, eh bien, réexplique-moi s'il le fallait. Montre-moi les choses comme toi, tu les vois. Et tout ce que tu souhaites que je vive, je veux le vivre. Prenez aucun risque. Ça veut dire que si vous vous trompez, Dieu vous donnera que ce qu'il veut. Voilà. Parce que si on demande, nous, des choses d'une manière ou d'une autre, ou si on n'en demande pas certaines, eh bien, on prend le risque, dans ce cas-là, que Dieu réponde qu'à ce que nous demandons, et de ne pas répondre à ce que nous ne demandons pas. Mais si nous demandons, Seigneur, fais en moi ton œuvre comme tu veux le faire. Amène-moi à vivre ce que toi tu as prévu pour tous tes enfants, et je veux le dire avec objectivité, et je veux le vivre avec liberté. Je ne veux pas retenir quoi que ce soit. Voilà. Je ferme juste la parenthèse sur ce point-là. Quand je me suis converti, il y a des choses que j'ai comprises d'en bas. Le pardon de mes péchés, le salut de mon âme, les réponses dans la vie de tous les jours et dans la santé. Et puis ce point-là revenait dans les prédications. Je l'écoutais, je le relisais. Et puis j'avais vu dans l'église où j'étais, certaines personnes vivre des choses de l'esprit, et ça m'avait un petit peu freiné, même beaucoup. Et puis, un jour, je m'en suis ouvert au frère avec lequel je me suis converti, qui n'est autre que Jean-René. Il m'a pris à part, il m'a dit, écoute, Alain, je vais t'expliquer. Il m'a expliqué les choses, et ça a été comme des nœuds qu'il a défaits. Et je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison. Et à partir de là, je ne sais pas combien de temps ça il s'est passé, mais pas beaucoup. Je me souviens qu'un jour, je me suis mis à prier, et puis ce que je disais me surprenait, parce que je ne le comprenais pas. Voilà. Et quelque part, les nœuds étaient défaits, parce que j'étais sincère, je voulais vivre ce que Dieu voulait donner à ses enfants, eh bien, c'était en train de se manifester. Alors l'apôtre Paul, qui arrive plus tard, qui n'est pas du tout là le jour de la Pentecôte, avec Pierre, qui se convertit après, vit très certainement les mêmes choses, il ne nous détaille pas où et quand. Mais il est possible que ce soit très vite, dans les premiers jours de sa conversion, ou peut-être pendant ce temps qu'il a passé en Arabie. Dans tous les cas, quand il revient et qu'il commence son œuvre d'apôtre, tout est calé. Et quand il écrit aux Corinthiens, on se dit, mais c'est incroyable, c'est comme s'il avait été là auprès du Seigneur Jésus pour entendre et comprendre. C'est comme s'il avait été là le jour de la Pentecôte, mais il n'était ni à l'un ni à l'autre. Et il l'a vécu après. Et quand il rencontre ces gens à Éphèse, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, des fois c'est bien d'être direct, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, il revient à l'arrière, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Après, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et je me dis, c'est le recommencement de l'histoire ou c'est la suite de l'histoire qui se recommence. Voilà. Et dans le temps qui a passé, tous les réveils dans l'histoire de l'Église sont résumés là. Revenir à pointer les choses. Certains ont été éduqués, inculqués dans les choses de Dieu. Mais il convient de les repointer. Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ah, mais oui, vous rebaptisez les gens. Attendez, on n'est pas là pour refaire ce qui a été déjà fait. Si ça a été bien fait, il n'y a pas besoin de le faire. Mais si ça n'a pas été bien fait, alors il convient de bien le faire. Et dire, vous refaites ce que d'autres ont fait, non. On n'est pas là pour refaire ce que d'autres ont fait. Dieu, en amenant chacun à la nouvelle création, il ne refait pas les choses. Il fait les choses telles qu'elles doivent être faites dans notre vie. Et surtout, et je vais terminer avec cela, ce sont des passages tellement connus, quand il écrit aux Corinthiens, alors il écrit ce chapitre 14 des Corinthiens qui est superbe. Le chapitre 13 est magnifique sur certains points, le chapitre 14 sur d'autres, notamment sur ce point-là. Et il dit au chapitre 14, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Et je me demande jusqu'à quel point Dieu n'attend pas que nous puissions être en communion avec lui de cette manière-là, pour qu'il puisse s'établir entre lui et nous un niveau de relation supérieur au niveau actuel. Je m'explique. Aujourd'hui, nous utilisons nos mots. Parfois, avec nos mots, on a du mal à dire ce qu'on ressent, déjà à quelqu'un. Parfois, on formule plus ou moins bien les choses. Voilà. Alors, quant à parler le langage de Dieu, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Sans vouloir rabaisser quiconque, parfois, quand vous parlez avec quelqu'un qui ne parle pas bien votre langue, vous êtes obligé d'utiliser les mots de base, le langage de base. Par exemple, avec des enfants ou un étranger qui arrive et qui commence à apprendre votre langue. Nous sommes et nous étions des étrangers pour Dieu. Pas les mêmes pensées, pas le même langage, pas la même façon de vivre. Il faut tout reprendre. Et il s'adapte. On regarde d'en haut, pas d'en bas. Il s'adapte. Et c'est à nous maintenant de pouvoir dire, mais Seigneur, je veux maîtriser. Comme un étranger qui vient dans un pays, et avec le nom que je porte, on y est passé. Sauf que moi, je suis la génération d'après, donc je ne connais pas la première langue. Mais mon grand-père était arrivé en brave espagnol, 100%, qui a dû apprendre le français. Alors on sait très bien comment les Espagnols arrivent au bout d'un moment à parler le français. Mais ne souriez pas, parce que votre origine, certainement, manifeste la même chose. Voilà. Et puis au bout d'un moment, on veut bien arriver, si on veut bien être compris, se faire comprendre, comprendre les choses, etc. Est-ce que nous aurions ce désir dans la dimension des choses de Dieu, de pouvoir bien comprendre, de pouvoir bien être compris, d'arriver à bien s'exprimer? Alors je vous donne juste ce passage de l'Épître aux Romains où l'Esprit nous aide dans notre faiblesse quand on ne sait pas ce qu'il convient de demander à Dieu, par des soupirs inexprimables. Alors ne le prenez pas au premier degré. Je ne sais pas si c'est un soupir inexprimable. Franchement, je ne le crois pas. si devant Dieu vous êtes limité, et parfois on est limité parce qu'on ne sait pas quoi dire, on dit, je voudrais dire, mais je n'y arrive pas. Alors, c'est le sens positif de la chose, mais il ne faut pas le prendre au sens premier. C'est un soupir inexprimable. Non, par des expressions qui ne sont pas intellectuellement parlant compréhensibles, parce que c'est écrit, celui qui parle à Dieu, personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Et moi, je suis de plus en plus convaincu, en fait, je le suis complètement, que Dieu nous attend dans un langage où, qui est pour lui, où, comment dire, c'est sa dimension. C'est sa dimension. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul fera cette petite phrase du chapitre 14, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église. Il fait la différence entre la vie personnelle et l'Église. Alors on laisse l'Église un instant de côté pour parler de notre vie personnelle et vue d'en haut. Je parle en langue plus que vous tous, c'est l'attente de Dieu. Dieu attend que nous puissions être dans cette dimension de relation et de communion avec lui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, verset 4. Il y a une dimension d'ordre spirituel dans cette grâce que Dieu a donnée à tous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120, et les 120 ont été baptisés dans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu sous une forme de langue de feu, se posèrent sur chacun d'eux, ils se mirent à parler. Et on n'est pas là dans cette communion avec Dieu à vociférer ou à faire des bruits qui ne sont pas, dont on ne trouve pas de correspondance dans les Écritures. On n'est pas là en train de vivre des expériences qui surprennent, voire qui dérangent. On est en train de parler. À la limite, c'est tellement basique, et c'est tellement plus simple. Parler. Mais parler à Dieu, non pas avec des mots limités, parce qu'ils le sont les nôtres, mais de parler à Dieu avec ses langues à lui. Et on peut parler les langues des anges. C'est écrit. Mais nous, on n'en est pas conscient, parce que c'est un esprit que l'on dit des mystères. Mais néanmoins, c'est ce que le Seigneur a établi. Et Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, puisque vous tous. Et à la fin de ce même chapitre, il dit, après avoir précisé certains points au niveau de l'Église, il dit, n'empêchez pas de parler en langue, parce que c'est l'attente de Dieu. Je voudrais qu'on puisse terminer là-dessus, et peut-être avoir un temps de recueillement, tout simplement. C'est ce que Dieu attend, c'est parce que nous, on avait prévu. Personne n'avait prévu le jour de la Pentecôte. Tout le monde attendait le pardon de ses péchés, oui, et en avait besoin, mais personne n'attendait ce que Dieu lui attendait. Donc du coup, c'est l'attente de Dieu, c'est pas la nôtre. C'est la volonté de Dieu, c'est pas la nôtre. Alors, sachons de temps en temps dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et si quelqu'un, éventuellement, n'était pas du tout d'accord avec ce que je dis ce matin, de grâce, ne venez pas discuter avec moi, parce que c'est pas mon problème. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est pas moi qui l'ai pensé, c'est pas moi qui l'ai annoncé. C'est écrit et ça apparaît déjà dès la Genèse. Et quand le Seigneur, et je termine avec ce point-là, après la résurrection, rencontre les disciples, recevez ce que le Père a promis. Alors, essayons de nous tenir devant le Père et dire, mais Seigneur, finalement, explique-moi si j'avais besoin encore de le comprendre et permets-moi de le vivre si j'ai besoin, si tu veux que je le vive. Et soyons honnêtes et objectifs en nous tenant devant le Seigneur.